7:04.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Michael Thébault, bonsoir.
Bonsoir, Nicolas.
Pourquoi vous riez?
Dans le ton.
Le ton, oui, oui. C'est de l'amour pourtant qui passe. Pour commencer, direction la Corée du Sud, Michael, Séoul, où la présidente destituée fait de la résistance.
Ah oui, elle a beau être accusée de corruption et de trafic d'influence, sous le coup depuis décembre d'une procédure de destitution votée par le Parlement, eh bien rien n'y fait, Nicolas. Park Geun-hye s'accroche au pouvoir. La présidente sud-coréenne refuse systématiquement de répondre aux convocations de la justice et ses partisans commencent à s'organiser d'une seule et même voix. Ils dénoncent aujourd'hui un complot fomenté par les pro-nord-coréens. Bonjour Frédéric Ojardias, correspondant de RFI et de France Inter en Corée du Sud.
Bonjour Mickaël, bonjour à tous.
Alors quelle est d'abord, Frédéric, l'ambiance, hein, même si on l'entend un peu, en ce moment même à Séoul?
Eh bien, c'est manifestation contre manifestation, en réponse aux grandes veillées aux chandelles qui sont organisées chaque samedi soir depuis plusieurs mois pour exiger le départ de la présidente. Les conservateurs pro-Park Geun-hye ont mis sur pied leur propre rassemblement. Ils sont certes beaucoup moins nombreux, mais ils sont visibles et bruyants depuis plusieurs jours. Ils occupent la place de la mairie de Séoul, où ils ont planté une vingtaine de tentes. Yoon Chae-yoon, 33 ans.
Il n'y a aucune preuve des allégations contre la présidente Park Geun-hye. Sa destitution n'est basée que sur des suspicions et des allégations des médias. Cette affaire est insensée dans un pays démocratique. Elle est digne d'un pays communiste qui ne respecte pas les lois.
Et par pays communiste, hein, Frédéric, j'imagine qu'il faut comprendre Corée du Nord, non ?
Tout à fait, c'est en fait une tactique ancienne utilisée par les ultra-conservateurs pour discréditer leurs opposants en les qualifiant de rouges à la solde de l'ennemi nord-coréen. Une des banderoles brandies devant la mairie accuse ainsi les gauchistes pro-Corée du Nord d'avoir infiltré la presse, la justice et le parlement pour fomenter une rébellion. Des accusations qu'aucune preuve ne vient fonder, mais cela n'arrête pas Chung Ham-chol, membre fondateur de Park Samo, l'association des partisans de Park Geun-hye.
Les médias étrangers ne doivent pas oublier que la Corée est un pays divisé. Il y a en Corée du Sud des espions et des forces nord-coréennes qui cherchent à créer des disputes et à diviser l'opinion. Il y a des rouges parmi les manifestants qui veulent la destitution de Park Geun-hye. Certes, il y a aussi beaucoup de gens avec des intentions sincères, mais ils ne savent pas la vérité et ils sont dupés par les rouges.
Oui, cette peur des rouges, hein, ces rumeurs de complot nord-coréen, eh bien on les retrouve jusqu'au sommet de l'État.
Tout à fait, la présidente destituée a elle-même évoqué un complot dans une interview donnée à un site internet conservateur. On peut aussi rappeler que l'un des motifs de sa destitution a été la création d'une liste noire de près de 10 000 artistes jugés trop critiques. Et selon la presse, le chef du cabinet de la présidente, à l'origine de cette liste noire, avait déclaré vouloir en finir avec, je le cite, « les forces pro-Corée du Nord qui dominent les milieux culturels depuis 15 ans ». Inutile de préciser que ces accusations exaspèrent les jeunes sud-coréens, qui bien sûr n'éprouvent aucune sympathie pour la dictature du voisin du Nord. Yong Kyung, 17 ans, venu manifester pour exiger le départ de la présidente.
C'est un grave problème dans notre société. Dès que quelqu'un affiche une opinion différente, il est qualifié de communiste nord-coréen. C'est insupportable.
Et si la Cour constitutionnelle valide finalement la destitution de Park Geun-hye, que va-t-il se passer ?
Eh bien, de nouvelles élections seront organisées d'ici 60 jours. Et justement, ces accusations de complot nord-coréen ont aussi un objectif électoral, explique Han Jong-un, politologue et professeur à l'Université nationale de Séoul.
La question nord-coréenne est le facteur le plus important qui détermine la compétition électorale en Corée du Sud. Oui, les questions économiques aussi sont importantes. Mais beaucoup de Sud-Coréens votent en fonction de sujets politiques, comme par exemple l'attitude à adopter face au Nord. Les soi-disant forces pro-Corée du Nord n'ont aucun rapport avec le processus de destitution. Mais les gens qui manifestent pour la présidente utilisent cette accusation pour tenter de mobiliser l'électorat conservateur.
Depuis la destitution de Park Geun-hye, le président par intérim est Hwang Kyo-ahn. C'est un ancien procureur qui a bâti sa carrière en traquant les prétendus éléments nord-coréens au sein de la société sud-coréenne. Et il est aujourd'hui pressenti comme le meilleur candidat des conservateurs pour les prochaines élections.
L'élection qu'on suivra bien sûr avec vous, Frédéric Jardias, en direct de Séoul. Merci.
Allez, on file aux États-Unis, Michael, avec, on en parlait dans le journal de 18h, la fracassante démission de Michael Flynn.
Eh oui, le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, contraint donc de démissionner hier soir, englué dans cette controverse sur les sanctions imposées à la Russie. Ancien général, Michael Flynn avait évoqué ces sanctions en tête-à-tête avec l'ambassadeur russe aux États-Unis, alors qu'il n'avait encore aucune fonction officielle dans l'administration présidentielle, ce qui est totalement proscrit par la loi américaine. Et il ne pouvait évidemment l'ignorer. Lui qui, durant toute la campagne, a joué les battleurs du candidat Trump, très efficace chauffeur de salle à chaque meeting de son mentor et avec, chaque fois, la même cible, Hillary Clinton et ses imprudents emails, comme ici, en juillet dernier, lors de la convention républicaine de Cleveland.
We do not need a reckless president.
Nous n'avons pas besoin d'une présidente imprudente qui se croit au-dessus des lois.
Lock her up. That's right.
En prison, vous avez raison, il faut la mettre en prison. Et vous savez pourquoi nous disons cela ? Parce que si j'avais fait le dixième de ce qu'elle a fait, je serais aujourd'hui en prison.
Eh ben voilà, c'est dit, Michael Flynn, donc juillet dernier à Cleveland, traduit par Frédéric Carbone. Et cette formule, vous l'entendez, reprise par la foule, lock her up, enfermez-la. Eh ben c'est retour à l'envoyeur.
Autre scandale, Michael, en Grande-Bretagne cette fois, avec ce programme de la chaîne de télé Channel 4.
Oui, un programme à succès et qui entame en ce moment même sa quatrième saison.
Real guys, come on. Ridiculous. Yeah.
The Jump returns Sunday at 7:30 on Channel 4.
Voilà, vous avez maintenant le titre de l'émission, Nicolas.
The Jump,
le saut. Alors, concept tout simple, vous prenez des célébrités de différents univers et vous les faites s'affronter dans plusieurs disciplines sportives sur neige ou sur glace, luge, bobsleigh, slalom ou saut à ski. Sport évidemment à risque et qui nécessite un minimum d'entraînement et d'encadrement, ce que la production assure fournir. Sauf que les blessés se comptent par dizaines. Durant la saison 3, en 2016, près de la moitié des participants avaient été contraints d'abandonner sur blessure. La gymnaste Bess Tweedle, médaillée olympique en 2012, avait dû être opérée d'urgence des cervicales après un saut de bosse. L'ancienne nageuse olympique Rebecca Linton s'était, elle, fracturé l'épaule. Le quotidien The Guardian avait estimé que The Jump était l'émission la plus dangereuse du paysage audiovisuel britannique. Eh bien, avant-hier, c'est le jeune retraité du cyclisme, le célèbre Bradley Wiggins, qui a dû quitter le plateau, jambes cassées. Le quintuple médaillé d'or olympique avait tenté un saut d'une vingtaine de mètres. Pluie de mails et de courriers de téléspectateurs qui exigent l'arrêt de l'émission. Pas question, répond Channel 4. Pas question avec près de 3 millions de téléspectateurs qui attendent impatiemment chaque semaine le gadin des stars. Et pour finir, d'autres stars. Alors pas à ski cette fois, mais en musique. Monica et Clara, deux jeunes péruviennes, musiciennes et principales chanteuses d'un groupe de pop-rock qui enflamme l'Amérique du Sud. Ça s'appelle Servas, le groupe Servas ou en français Les Servantes, groupe dont la particularité est d'être exclusivement composé de nonnes, 12 sœurs roqueuses originaires du Pérou, d'Équateur, du Venezuela, d'Argentine, du Chili, mais aussi de Chine, du Japon et des Philippines. C'est elles qui avaient joué pour le pape François lors de son dernier voyage au Mexique. Elles viennent de sortir leur cinquième album, déjà vendu à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, véritable célébrité en Amérique latine et dont les vidéos sur Internet sont visionnées par millions. Mais souvenons-nous, Nicolas, que c'est la Belgique qui avait ouvert la voie dès 1963 avec le succès planétaire de Jeanne-Paul-Marie Dekkers, beaucoup plus connu sous le nom de sur Sourire.
Dominique et Nick s'en allaient tout simplement, routiers, pauvres et chantants. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.
La célèbre Dominique, Sœur Sourire, avait elle-même écrite, composé et interprété au profit de son ordre, les Dominicaines. À demain, Nicolas.
À demain, mon cher Michael. C'est la chanson préférée d'Anthony Bélanger. Il la danse très très bien. 18h46.